Charles Dupont-White, Réflexion d'un optimiste. Chapitre 7. L'irreligion est-elle un obstacle particulier parmi nous à la liberté? On voit que nous tentons à cette heure une expérience prodigieuse, essayant la chose du monde la plus difficile, dans des voies obscures, sur un terrain qui se dérobe. Pourquoi donc les philosophies et les religions n'ont-elles rien à nous apprendre là-dessus? Voilà des institutrices bien fautives, bien négligentes. Comment? Vous êtes la science de l'homme, la discipline de l'homme. Et vous ne savez rien nous dire sur ce rôle nouveau qui nous échoit, sur ce que vaut l'homme politiquement et sur ce qui peut accroître cette valeur. Enfin, sur ce qu'il faut craindre ou espérer de l'homme érigé en souverain. J'attends et je réclame une nouvelle révélation qui ne serait pas de trop. Car il me semble que nous aurons bien de la peine à suppléer par un effort de raison théorique à cette laborieuse acquisition de la liberté, laquelle s'est faite en 600 ans et plus parmi nos voisins. Voilà donc où nous en sommes, ou plutôt ce que nous sommes. Un peuple sans religion. Un peuple où les idées et les institutions religieuses sont en décadence, qui prétend néanmoins s'élever et s'améliorer dans l'ordre politique et parvenir à se gouverner lui-même. Cela ne s'est jamais vu. C'est la première fois que les hommes se confient à leur raison, rien qu'à leur raison, répudiant soit la leçon des mœurs et de l'histoire, soit la discipline d'en haut et la lumière surnaturelle que les individus et les gouvernements avaient reconnue, avaient invoquée jusque-là. La chose éclata en 93, où l'on vit des déesses de la raison. Mais ce culte avait commencé sous l'Ancien Régime. Au XVIIIe siècle, il n'était question que de la nature et de la raison. C'est ce qui manquait le plus à ces temps passionnés et maniérés, malgré beaucoup d'esprit et de droiture. Il y avait alors une croyance universelle aux droits humains, une confiance non moins universelle dans la raison comme capable de les conquérir et de les rédiger. Les droits des hommes réunis en société, disait Turgot, ne sont pas fondés sur leur histoire, mais sur leur nature. Nous venons de le remarquer. La raison invoquée, alors, l'était non seulement contre le surnaturel et le divin, mais contre le passé. Quand la Bretagne redemande ses États, voyez comme Mirabeau lui fait la leçon. Ce n'est pas dans de vieilles chartes qu'il faut chercher le droit de la nation. C'est dans la raison. Ces droits sont anciens comme le temps et sacrés comme la nature. À la longue, cela devient monotone et insoutenable. Quand on tient la vérité, ou même seulement la moitié de la vérité, comme faisait Mirabeau en cette occasion, il ne faut pas lui faire l'injure de la déclamer. Il n'y a pas jusqu'au roi qui, dans la séance royale du 4 février 1790, ne félicite, au nom de la raison, les départements substitués aux provinces. Je m'empresse de le dire, ce que nous constatons ici d'aigu, d'effréné, est l'état logique et apparent des choses plutôt que leur état réel. Il n'est pas au pouvoir humain de rompre ainsi avec le passé. Nul doute que la religion ne persiste dans certaines âmes et que le christianisme n'ait laissé dans toutes certains fruits de sa longue domination. Rien ne prouve que la France soit sans religion. Mais, pour plus de sûreté, nous ferons bien de jeter un coup d'œil en passant sur cette question. Une société peut-elle vivre sans religion? Question toute française, car, quelle que soit parmi nous la réaction religieuse, il faut avouer que le livre de Lamennais sur l'indifférence en matière de religion conserve encore un véritable à-propos. C'est le cas, il me semble, d'interroger l'horizon et de se figurer l'avenir en conséquence. Il n'y aurait pas de question si la religion contenait à elle seule toutes les idées, toutes les impulsions, tous les freins de l'ordre moral qui agissent sur les hommes. À ce compte, une société sans religion serait une société perdue, frappée à mort, qui va se dissoudre et tomber en ruine au premier jour. Mais la religion n'est pas cette règle unique et n'a pas cette compétence exclusive sur les âmes, sur les conduites. Elle est un produit de ce fond qu'on appelle l'esprit humain, entendant par là les pouvoirs d'intelligence et de conscience qui nous appartiennent. Or, ce produit n'est pas le seul qu'on puisse attendre de ce fond, lequel préexistait aux religions et pourrait bien leur survivre avec toute sa fécondité. En parlant de la sorte, nous n'entendons rien articuler, rien insinuer contre le caractère divin des religions. Si la religion est un développement de l'intelligence humaine, il est vraisemblable que ce développement est voulu et décrété d'en haut. Cela est vraisemblable comme l'existence de Dieu. Avec cette source reconnue, une religion est divine et demeure telle, nonobstant le concours de l'esprit humain. Ce concours, qui n'ôte rien au titre divin des religions, est nécessaire. Comment Dieu agirait-il sur l'homme si ce n'est au moyen de la nature humaine, dans les limites et dans les proportions actuelles de l'entendement qu'il y a mis? Aussi bien, comment cet organisme pourrait-il intercepter et réduire à rien le souffle divin? De grands esprits ont reconnu, ont établi péremptoirement, les harmonies du christianisme avec la raison humaine. Je reconnais, dit Turgot, tout le bien que le christianisme a fait aux hommes. Mais son plus grand bienfait est d'avoir éclairci et propagé la religion naturelle. Parole mémorable à une époque où toute religion était traitée d'imposture et d'invention humaine par les uns, enseignée par les autres comme une révélation, comme un éclair divin, venant percer tout à coup les ténèbres morales où vivait l'ancien monde. Quant à Joseph de Maistre, tout son effort est de montrer que l'idée de rédemption fait partie de l'esprit humain et fait suite notamment à l'idée de sacrifice dont se composaient les religions et les cultes de l'Antiquité. Ainsi, le lecteur est bien prié de ne rien voir d'irreligieux dans ce qui précède. On ne croit pas avoir nié le caractère divin des religions. On se borne à dire qu'elles ne remplissent pas l'esprit humain tout entier et qu'il y a place à côté d'elles pour d'autres mobiles d'une véritable puissance. J'invoque tout d'abord une preuve entre toutes, vous priant bien de remarquer la plus grande force morale, la plus grande impulsion qui soit parmi les hommes modernes, l'honneur. C'est ce qui fait le soldat, le marin, le duelliste, le médecin des épidémies. D'après Montesquieu, c'est ce qui relève le courtisan, qui le tient debout en face du roi absolu, qui distingue la France de la Turquie. C'est une borne au pouvoir absolu, quelque chose de considérable apparemment. Avec l'honneur, on a une conscience écoutée. L'homme n'obéit pas à l'homme. On discute les ordres reçus et l'on répond comme le vicomte d'Orthès à des ordres de massacre. Si toutefois cette fameuse lettre n'est pas une pure invention d'Agrippa d'Aubigné, de quoi il y a certains indices. De nos jours, un assez grand écrivain, Alfred de Vigny, a repris cette thèse et l'a développée avec force, considérant l'honneur comme la seule foi qui ait duré dans ce pays et comme suffisant à le sauver. Au fait, il n'y a rien de si puissant que l'honneur dans le monde moderne. Il s'est créé là une force d'inertie et même une force d'entraînement qui triomphe de l'instinct vital sur le champ de bataille, sur le pré, devant les épidémies. Cela dit tout. La religion a ses incrédules, la morale a ses mécréants. Mais l'honneur oblige tous les coquins à l'hypocrisie. Outre les effets éclatants et triomphants qu'on vient de dire, il y en a d'autres, tout aussi réels, tout aussi reconnaissables, défendant aux magistrats de vendre la justice, aux commerçants de subir un protêt. On pourrait appliquer l'honneur à l'éducation des filles en même temps que la religion et tout ce qu'il y a de frein connu. Comme l'honneur et le respect de soi-même, l'observance de la parole donnée, le contact du soufflet érigé en mortelle insulte, l'inviolabilité de la personne, une femme élevée dans ce sentiment et dans ses analogies aurait la première vertu de son sexe. Voilà donc une société sans religion, où le militaire, le magistrat, le commerçant, le médecin, la femme même, peut-être, auraient les qualités élémentaires de leur état. J'ai parlé d'honneur tout d'abord parce que c'est la chose, en dehors des religions, la plus moderne et la plus frappante dans son action sur les hommes. Mais en remontant vers l'Antiquité, on voit la conscience et la conduite humaine se dégager de la théocratie, reconnaître et subir d'autres impulsions. Ainsi, le patriotisme, le dévouement, la passion militaire et héroïque se manifestent pour la première fois parmi les Grecs dans l'histoire du monde. Les Grecs ont absolument inventé ces choses, dit un homme d'esprit comme Flavio Riora, a inventé la boussole. Or, cela est arrivé aux hommes alors que, dans cette péninsule de la Grèce, ils s'étaient affranchis des influences théocratiques et sacerdotales dominantes en Orient. Déjà, commençait la division du spirituel et du temporel. Division qui est la plus grande découverte humaine, plus grande que l'imprimerie. Car sans cette découverte, le livre n'eût servi qu'à répandre et propager les fétichismes régnants, les orthodoxies surannées et malfaisantes. Si nous poursuivons le dénombrement des influences qui ont agi sur le monde en dehors des religions, nous avons à franchir quelques siècles et à considérer l'invasion septentrionale qui a renouvelé l'Europe. Les barbares ont apporté avec eux une nouveauté capitale, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, l'individualisme. Ils ont apporté cela, dis-je, comme Parmentier a apporté la pomme de terre. et cela n'est pas moins qu'une substance nouvelle. Maintenant, est-ce à dire que ces influences non religieuses, ou plutôt non sacerdotales, subies par le monde, ne soient pas des influences divines? Le fait est qu'une société n'est jamais sans une religion, jamais du moins sans une influence d'en haut sur les idées humaines, qui s'ajoute à la conscience individuelle, à l'opinion publique, à l'empire des lois et de l'État, qui parle de plus haut, quelquefois avec prestige et tonnerre, quelquefois avec toutes les véhémences d'un sentiment. Admettre d'autres influences sur l'homme que l'influence religieuse proprement dite, ce n'est pas nier l'intervention divine dans les affaires du monde et dans les idées de l'homme en général. Tout est divin au monde dès qu'il y a un Dieu. Que, si vous n'admettez pas un Dieu, vous êtes forcé d'admettre des... L'hypothèse à rejeter entre toutes, c'est que les choses soient livrées à leur caprice ou au nôtre. L'homme et le hasard n'ont pas charge de l'univers, qu'ils se le tiennent pour dit. Il y a pour cela une providence ou des lois naturelles, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes que l'être et la vie ont revêtues. Comme les choses nous apparaissent dans un enchaînement où elles dérivent les unes des autres, avec une continuité d'allure qui ne se dément pas, c'est que le hasard n'est pas de ce monde. Quant à l'homme, il ne s'est pas fait, il n'a rien fait. J'ajoute même qu'il ne règle et ne gouverne quoi que ce soit. Il est clair que nous ne faisons pas notre destinée individuelle ni sociale, que les choses les plus intéressantes pour nous s'accomplissent en nous et autour de nous sans que nous nous en mêlions, que nos actes nous appartiennent en toute responsabilité, mais que la suite et l'effet de nos actes nous échappent et appartiennent à des lois dont nous ne sommes ni les auteurs ni les maîtres. Ainsi, il y a quelque chose de surhumain dans un fait aussi universel que les religions, quelque chose d'imposé à l'homme, de nécessaire à l'homme, n'étant ni de son choix ni de son invention. Il ne nous est pas permis de dire, comme le faisait le XVIIIe siècle, qu'une religion est une imposture de prêtre, un caprice de barbare, un produit complexe de la méchanceté, de la fourberie et de la bêtise humaine. Non, il ne faut pas croire qu'une société puisse vivre uniquement des passions ou des combinaisons humaines, des instincts et des calculs de l'individu. Mens agitat molem. Naturellement, nécessairement, ce souffle supérieur agit en nous et par nous, puisqu'il agit sur nous. Les religions, pour être puissantes et impérieuses, n'en font pas moins suite à l'esprit humain, le prenant comme il est, pour le pousser où elles veulent. L'esprit de l'homme est le fond développé par les religions. Ce fond supporte tout. Il n'y en a pas d'autre, du moins, pour produire une action sur nous. La religion est une culture divine de ce fond. Mais ce fond peut être divinement cultivé d'une autre façon et avec d'autres produits, où n'apparaît pas le caractère religieux proprement dit. Ainsi, l'Orient paraît admettre que les arts de la vie matérielle, écriture, charrue, navigation, tissage, poterie, sont autant de révélations divines. Pourquoi pas? ces arts élémentaires dépassent de 100 coudées les plus hautes inventions modernes. Il suit de là qu'une société n'est jamais sans quelque assistance surhumaine, jamais livrée à l'homme tout cru. Alors même que les choses extérieures et usuelles de la religion semblent tomber en désuétude. Il n'y a jamais un moment, un état dans la vie sociale où les calculs et les instincts de l'individu, où les lois et la force de l'État, où la liberté civile et le jeu des intérêts suffisent à cette vie. La simple humanité ne fournit rien par-delà ces trois choses pour gouverner le monde. Mais ces trois choses sont impuissantes. Une société tomberait en dissolution qui n'aurait pas d'autre ciment. Une société, quoi qu'elle en ait, ne saurait échapper aux lois naturelles ou aux décrets divins qui la dirigent et la maintiennent. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, dit l'Écriture. Une image qui n'exprime pas mal ce gouvernement divin, dont l'humanité est le théâtre et le sujet. Gouvernement variable et changeant en ses procédés, permanent en sa providence. Vous tenez à l'influence religieuse. Vous identifiez la religion et la société parce qu'une religion est à vos yeux un code de morale. Tel est en effet le christianisme. Mais une religion est volontiers tout autre chose. Par exemple, une conception, une explication de l'univers, où la règle morale n'a rien de prépondérant. Telle était la mythologie. Les païens avaient une morale, dit Théodoret. Le paganisme n'en avait pas. Le christianisme lui-même, si vous demandez aux religions une saine influence sur l'ordre politique, n'enseigne rien en fait de droits et de devoirs politiques. Ainsi, Dieu agit sur le monde, mais on pourrait croire à quelque lassitude de son action religieuse. Il semble, en effet, que l'autorité des religions diminue sous deux rapports. D'abord, parce qu'une religion est une explication universelle des choses. Exemple, la Genèse. Or, la science est venue prendre sur ce terrain la place de la religion. Ensuite, parce que si la religion, la chrétienne surtout, est un enseignement moral, une règle de conduite, ce n'est pas une raison pour qu'elle convienne aux temps actuels. Le fait est que cette religion est sans précepte sur des choses postérieures de 2000 ans à son apparition dans le monde, la politique et l'industrie. Ainsi, nous avons à traiter l'idée où la religion et les influences cléricales ont perdu quelque chose de leur empire. Toutefois, nous avons parlé au début d'une réaction religieuse très sensible depuis 30 ans. Le tout après avoir rappelé l'irreligion qu'a montré le siècle dernier. Tout cela n'est guère intelligible. On ne comprend pas cette succession ou cette imminence de fécondité. Humain soit un pur caprice, une vicissitude sans loi, une série de hasards. Non, il s'en faut de tout. L'esprit humain a ses lois, mais les lois d'un esprit lui laissant tout son jeu, toute sa responsabilité d'agent moral. Il n'est pas rectiligne. C'est ce qu'on peut voir clairement en ce sujet même des religions et des révolutions. Ces grands mouvements d'idées, de mœurs et de lois, qu'on appelle révolutions, ne vont pas toujours droit devant eux d'une allure régulière et soutenue, ne se propagent pas tout d'une haleine. Ils ont des temps d'arrêt, des déviations et même des retours nommés aujourd'hui réactions. Toutefois, c'est leur destinée infaillible, après maintes vacillations, de se redresser, de reprendre leur direction première et d'y rester à jamais. L'Angleterre en est un éclatant exemple. Religieuse qu'elle était au point de départ de ses révolutions, elle se retrouve religieuse aujourd'hui, après une longue et vive intermittence du sentiment initial qui l'avait mise en mouvement. Oui, les Anglais eurent une longue réaction irreligieuse. Il faut voir comme la chose est contée, comme elle est expliquée, surtout dans un livre magistral, par un des plus beaux et des plus grands esprits de notre temps. Que voulez-vous? Rien ne triomphe sans inspirer la haine aux vaincus, et un certain dégoût aux vainqueurs eux-mêmes, honteux de leurs moyens et de leurs auxiliaires. En Angleterre, la cause religieuse des révolutions ne fut pas plutôt gagnée qu'elle subit une certaine disgrâce d'opinion. Penseurs, politiques, gens du monde, romanciers, tournèrent à l'athéisme. Pendant près de 80 ans, tout porta la trace de ce revirement. La mode s'en alla et prit parti contre les mœurs austères et maussades, contre les passions sérieuses et violentes qui avaient fait la fortune de Cromwell. Mais cet état des esprits était accidentel, temporaire, étranger à la substance anglaise, à ce fond d'esprit religieux qui avait fait les révolutions de ce pays et qui en a repris possession de nos jours. Pour tout expliquer par un nom, Bolingbroke fut le maître et le modèle de Voltaire. Seulement le maître a passé et l'élève est resté. C'est que le maître était l'organe d'une réaction, tandis que l'élève était le précurseur et l'agent d'une révolution. À quoi bon le dissimuler? Tel est notre passé, que notre révolution fut faite contre les deux puissances qui sont le plus capables de conduire les peuples et de leur apprendre à se conduire eux-mêmes, c'est-à-dire contre la noblesse et l'Église. Quand nous serons libres, nous aurons gagné une prodigieuse gageure. Il s'en faut de beaucoup que cette donnée première et anticléricale de 89 ait persisté dans sa plénitude. Renouvelée en 1830, elle fut interrompue il y a plus de 25 ans par une réaction très marquée dont nous avons encore le spectacle aujourd'hui. Cette réaction est réelle et sincère. Toutefois, la profondeur et l'avenir lui manquent. Naturelle, elle l'est sans doute, mais de même nature que la réaction nobiliaire, attestée par le goût recrudescent des titres et des particules dont le gouvernement est obsédé, qui ressuscite à vue d'œil et qui est un travers bourgeois bien plus que patricien. Il me semble que ces deux réactions ont même puissance, même portée, l'une ne menaçant pas plus l'égalité des personnes que l'autre n'est dangereuse pour l'indépendance du pouvoir civil et de la raison humaine. Vous me direz que le pouvoir clérical s'est emporté de nos jours à des affirmations, à des intolérances de paroles inouïes. Mais il n'est pas clair que ces excès marquent la force, ni même la confiance. demander à l'histoire ce qui en est. Sans remonter à Julien, à Simac et à leur restauration mal avisée. Une histoire assez récente vous montrera l'Ancien Régime, quand tout s'acheminait vers 89, promulguant un édit pour imposer à tout sous-lieutenant 4 quartiers de noblesse. Les dieux ne s'en vont pas sans un certain tonnerre. Ceci n'est pas moins qu'une loi de l'histoire, qu'une façon élémentaire du progrès accompli par les révolutions. Ces grands mouvements chancellent, mais ne tombent pas. Leurs écarts sont suivis de redressements infaillibles. Une courbe rentrante, telle est leur figure, que j'emprunte à M. de Maistre parce que c'est lui. Car ici, l'image la plus juste serait celle de la marée montante, où chaque flot se retire, mais après avoir porté un peu plus loin que le flot précédent, de telle façon qu'en définitive, force reste à l'ascension. Ainsi, tout comme les révolutions d'Angleterre, à base et à fin religieuse, ont fait, après maintes éclipses, une société religieuse, de même, nos révolutions, dirigées non pas contre le sentiment religieux et la religion, mais contre le pouvoir et l'esprit clérical, qui était un des privilégiés d'autrefois, a fait une société qui demeure ennemie de la puissance et des maximes cléricales. En résumé, nous voyons toujours parmi nous soit le sentiment religieux, soit les influences surhumaines, d'où dépend toute grandeur, toute morale ici-bas. Toutefois, en général, on entend par religion un ensemble de croyances, de mœurs, de pouvoirs qui font grande figure dans la société. Ce mot représente d'abord des choses intimes et immatérielles, mais ensuite un culte, une église, une hiérarchie, c'est-à-dire des choses extérieures et réelles de la plus haute apparence. C'est la religion entendue et figurée de cette seconde façon qui paraît compromise parmi nous. Si la religion était l'unique expression du droit, la théocratie serait le seul gouvernement légitime. Elle serait même absolument nécessaire et l'on n'en verrait pas d'autre parmi les hommes. Mais cette vraisemblance n'est pas la vérité. Le fait est que l'Occident a grandi en évinçant la théocratie, en créant la division du spirituel et du temporel. Cela posé, il faut croire une de ces deux choses, ou que le monde subsiste par des ressorts moraux qui s'ajoutent aux ressorts religieux, ou que la religion est le seul ressort moral, mais que s'il régnait seul, il éteindrait et figerait la société. Un résultat encore plus fâcheux que certains désordres d'existence sociale. Il ne faut pas quitter ce sujet sans répondre d'une manière précise à la question que nous avons posée au début. Une société peut-elle vivre sans religion? Oui, si par religion vous entendez les cérémonies, les églises, les orthodoxies formulées et apparentes. Non, si la religion signifie pour vous les croyances, les impulsions morales qui descendent d'un Sinaï divin ou naturel sur l'esprit et sur la conscience de l'homme. Nous ne vivons pas plus de nos instincts et de notre raison que nous ne vivons de pain. À ce compte, une société ne peut jamais être absolument vidée de cette religion intime et transcendante. À quel signe se reconnaît donc une société malade? À des signes variés, nombreux, intimes, qu'il n'est pas impossible de détailler, mais dont le déclin des églises ne fait pas nécessairement partie. C'est tout ce que nous avons voulu montrer ici. Notre dernier mot est ceci. Les religions ne remplissent pas l'esprit humain tout entier, ne le composent pas à elles seules. L'esprit humain lui-même ne remplit pas le monde, ne suffit pas à gouverner les sociétés humaines. Quelque chose de supérieur y descend et leur apparaît à cette fin, dont il est simplement l'agent et l'interprète.